BW. Magazine Environnement.
Comment protéger les forêts? C'est la question que beaucoup se posent après l'annonce des chiffres alarmants sur l'ampleur de la déforestation. Le monde a perdu 178 millions d'hectares de forêts les 30 dernières années, soit l'équivalent de la taille d'un pays comme la Libye. C'est ce qu'ont révélé les conclusions d'une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO.
La principale cause directe de la déforestation et de la perte des forêts est l'expansion de l'agriculture. On a estimé que l'agriculture est responsable de plus de 70% de la déforestation tropicale.
Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivit Yassou au micro. D'après le dernier rapport de la FAO sur les évaluations des ressources forestières mondiales, la déforestation et la conversion des forêts à d'autres fins constituent les principaux facteurs qui expliquent la dégradation de la nature. Toutefois, la situation n'est pas la même partout. Certaines régions du monde arrivent à limiter la déforestation, selon Anne Brantom, spécialiste des forêts à la FAO.
Tout d'abord, c'est qu'à l'échelle de la planète, la perte nette de forêts et la déforestation continuent à ralentir. Mais les forêts continuent de disparaître à un rythme soutenu de 4,7 millions d'hectares par an. Une autre nouvelle, c'est que les forêts et la superficie des forêts dans les aires protégées a fortement augmenté depuis les années 90 et atteint maintenant 18% de la superficie forestière. Une troisième chose qu'on voit aussi dans le rapport, c'est que la superficie de forêt qui était couverte par des plans de gestion a augmenté de 13% au cours des 20 dernières années. Donc plus de la moitié des forêts du monde sont maintenant couvertes par des tels plans de gestion ou d'aménagement. Il y a donc des améliorations encourageantes vers une gestion plus durable des forêts. Et les données montrent que des progrès ont été réalisés dans l'atteinte des objectifs de développement durable en particulier. Cependant, elles indiquent aussi qu'il ne faut pas baisser la garde car la déforestation et la dégradation des forêts se poursuivent rapidement.
Le rapport de la FAO offre des informations essentielles aux décideurs en vue d'évaluer l'ampleur des dégâts causés à l'environnement, comme l'explique Anne Brantom, spécialiste des forêts à la FAO. Et l'agriculture demeure la principale cause de la déforestation, d'après l'étude de l'organisation onusienne.
La principale cause directe de la déforestation et de la perte des forêts est l'expansion de l'agriculture. On a estimé que l'agriculture est responsable de plus de 70% de la déforestation tropicale. L'agriculture commerciale à grande échelle, donc d'abord l'élevage de bétail, la culture de soja ou de l'huile de palme, elle compte pour 40% de la déforestation tropicale. L'agriculture de petite échelle, locale, de subsistance, elle représente quant à elle 33% de cette déforestation. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que les facteurs varient beaucoup d'une région à l'autre. En Afrique, par exemple, le facteur principal est l'agriculture vivrière de subsistance et elle est liée aussi à une forte croissance démographique qui a un impact sur le taux de déforestation. Tandis qu'en Amérique latine, la perte de forêt est plus fortement associée à l'agriculture à grande échelle commerciale. Pour ce qui est de la dégradation des forêts tropicales, elle est surtout imputable aux coupes de bois, notamment en Asie et en Amérique latine, et plutôt à l'extraction du bois de chauffe ou de bois pour la production de charbon de bois en Afrique.
Alors quels sont les points chauds à travers le monde, les principales régions affectées pour chacun de ces phénomènes?
Alors sur la dernière évaluation de 2020, la plupart des pertes de forêts ont été enregistrées en Afrique subsaharienne notamment. Et ceci est assez inquiétant parce que les pertes de forêts sont également en hausse dans cette région. On a aussi de grandes superficies de forêts qui ont disparu en Amérique latine. Mais là, on observe des signes positifs, vu que les pertes de forêts ont été réduites de moitié au cours de la dernière décennie. Alors, la FAO a fait de cette lutte contre la déforestation en particulier une priorité. Elle appuie tout d'abord les pays dans leurs efforts pour produire de bonnes informations sur les forêts. Et ces informations sont très importantes parce qu'elles permettent ensuite d'alimenter les processus de décision politique en lien avec les forêts. Donc, on peut citer par exemple une initiative qui est la nouvelle décennie 2021-2030 des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Donc, ça, c'est un travail que la FAO dirige conjointement avec l'ONU Environnement et qui vise à renforcer massivement aussi la restauration des écosystèmes dégradés. La FAO assiste en particulier les communautés locales, les gouvernements, au travers d'un grand programme qui est de restauration de la Grande Muraille Verte. Ce programme est actif dans une dizaine de pays et a pour objectif de gérer durablement les ressources et les écosystèmes qui sont affectés en particulier par la désertification, la dégradation des terres et qui reposent aussi sur une restauration des écosystèmes forestiers.
Les propos de Anne Brantome, spécialiste des forêts à la FAO, ont été recueillis par Anaïs Autin de l'ONU Info. Améliorer la durabilité des forêts et la vie de ceux qui en dépendent sont des éléments clés en vue de réduire la pauvreté et de contribuer à la sécurité alimentaire dans le monde.
DW.
Dans de nombreux pays africains, certaines pratiques constituent des dangers graves pour les cours d'eau. C'est le cas au Mali où l'un des affluents du fleuve Niger, le Sankarani, subit les affres de l'orpaillage par dragage. Rodrigue Guezodia est allé à Manenkoura, au bord du fleuve Sankarani, à environ 150 km de Bamako, la capitale, pour toucher du doigt cette réalité.
Nous sommes au bord du Sankarani, un important affluent du fleuve Niger qui prend sa source en Guinée. C'est sur ce fleuve que le barrage de Sélingué se trouve et ça se jette dans le fleuve Niger aux environs de Kourouba.
Oumar Koné est natif de Sélingué, village et aussi bassin du fleuve Sankarani où est érigé l'un des plus importants centres de production d'énergie hydroélectrique du Mali. Ce technicien du développement rural connaît bien les contours du Sankarani dont plusieurs pays d'Afrique occidentale se partagent les avantages environnementaux et les ressources naturelles. Cet important affluent du troisième plus grand fleuve du continent traverse, outre le Mali, les territoires de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Justement, du côté malien, il est devenu une grande attraction, non pas pour ses richesses halieutiques.
Ils ont amené des systèmes, des machines qui arrivent à extraire l'or dans le lit du fleuve, et même en creusant le bord du fleuve. Ces derniers temps-là, vraiment, c'est devenu une activité qui a attiré beaucoup de gens. Et avec ces machines-là et qui ont inondé carrément le lit du fleuve. Le lit était très riche, mais aujourd'hui, vraiment, on sent que le lit s'est appauvri.
Il s'est appauvri par cette pratique, non seulement du fait qu'elle provoque l'ensablement de ce cours d'eau et le rend inhospitalier à la vie de certaines espèces, mais aussi et surtout à cause de l'usage de certains produits hautement toxiques utilisés pour l'extraction de l'or. À l'instar de ceux qui exercent cette activité, les populations en ignorent les effets néfastes pour l'écosystème aquatique.
On ne peut pas évaluer les dangers de cette activité pour l'environnement. Le Mali est reconnu par sa production en poisson. L'économie malienne repose à peu près à 20% sur la pêche. Donc aujourd'hui, on voit que tous les vidanges que ces dragueurs font au niveau de leurs machines sont déversés dans le lit du fleuve. Ils ne savent pas le danger. Donc l'eau est polluée. Les poissons, on voit tout le temps des corps de poissons dans le fleuve. Les poissons se font de plus en plus rares. Parce que les pêcheurs eux-mêmes pratiquent l'activité. Donc on n'a plus de poissons.
Ça veut dire qu'ils utilisent aussi des produits toxiques.
Des produits toxiques, le mercure par exemple, pour traiter l'or. Donc ils sont tous nocifs, non seulement pour les aquatiques qui sont là, mais aussi pour la population analphabète qui est là, qui ne mesure pas ces dangers, qui ne voit que les petits sous qu'ils gagnent quotidiennement.
Mais Awa, une habitante de Manenkoura, dit avoir conscience des risques de l'orpaillage par le dragage et ses impacts. Impacts qu'elle ne limite pas seulement à la vie des poissons.
Oudou, mais c'est comme on dit là. Ce qui est dangereux pour l'eau, comme celle de ce grand fleuve, ne concerne pas seulement les poissons. C'est vrai que le poisson est important pour nous les femmes et quand c'est rare, on le ressent sur le marché car ça devient cher et tout le monde crie. Mais ce problème est dangereux pour tous les produits qu'on retrouve dans l'eau et même les oiseaux aquatiques. Je sais aussi que la grande partie de l'eau que nous utilisons à la maison dans nos ménages vient du fleuve.
Même si, par le truchement du code minier, le gouvernement prend des dispositions pour interdire l'activité, certains s'entêtent et continuent de scruter les profondeurs du fleuve. Ce que déplore Awa Diabaté.
Là maintenant, vous ne voyez rien, hein? Tout est calme, sinon tu ne pouvais même pas entendre ce que je dis à cause du bruit des moteurs. Même à un mètre, on ne peut pas s'entendre. Donc c'est calme parce que le gouvernement a pris des mesures pour arrêter ça. Parce que le fleuve, ce n'est pas pour le Mali seulement. Je peux dire, c'est pour toute l'Afrique. Mais les décisions du gouvernement ne sont pas vraiment respectées. Les jeunes qui pratiquent le dragage et intoxiquent l'environnement, quand ils sentent que les patrouilles sont absentes au niveau du fleuve, ils reprennent de plus belle. Mais c'est dommage.
Et certains habitants de la localité justifient le phénomène par la pauvreté et le chômage des jeunes dans le pays, du fait peut-être de la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader.
Merci à Rodrigue Guézodier, merci également à vous de nous avoir suivis. Kossi Vitiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.
Sous-titrage Société Radio-Canada.